à voix nue. Cette semaine, enregistrée en 1996, la rencontre entre Jean d'Ormesson et Jean Daniel, récemment disparu. Ce soir, la formation et les origines de l'engagement politique.
Cette évocation de vos ancêtres ne m'intimide pas, elle m'en impose. Et où est la différence ? C'est que quand ma sœur aînée me conduit à faire de ce livre le rouge et le noir, une sorte de référence, pourquoi ? Ce qui me frappe le plus dans ce Julien Sorel, qui prend pour maître Bonaparte et Tartuffe, qu'est-ce qui m'impressionne le plus ? C'est qu'à chaque moment, il envie les de la Mole, et même un peu le Rénal, qui est un médiocre. Il leur envie la possibilité à chaque instant de se dire « je me dois d'eux », cette expression. Au fond, le fait d'avoir des obligations personnelles dans le comportement quotidien lui sert de règle, leur sègre à ces aristocrates, de règle naturelle, alors que lui, Julien, comme moi qui le lis et qui m'identifie, je suis obligé de m'en inventer. Je dois suivre ma liberté, et si c'est possible, mon génie créateur de comportement, tandis qu'eux, ils n'ont à suivre que leurs ancêtres, même s'il leur arrive d'auréoler ou de magnifier des exploits mythiques. Chez Julien, ça compte énormément. Alors moi, j'ai la légende de mon père, enfin, elle est unique, et puis elle est circonscrite, et puis c'est mon père. Mais tout de même, cette règle est importante, cette règle qu'on hérite des ancêtres. Alors d'autres les trouvent dans l'histoire, dans la religion, dans les obligations, mais l'apprenti Julien Sorel que je suis se dit, qu'est-ce qu'on fait ? Alors Julien Sorel se bat en duel, et moi je me bats, non pas en duel, mais je me bats souvent. Quand arrive l'engagement politique, il vient de quoi ? Il vient de ce que je suis par hasard entraîné dans un comité qui s'appelait les antifascistes Amsterdam Pleyel à l'époque. Quel était un journal qui avait beaucoup de prestige, le journal qui avait du prestige nous avions de 15 à 17 ans, s'appelait Vendredi, hebdomadaire, fondé par des écrivains et des intellectuels et dirigé par eux. Et il y avait Jean Guénaud, André Violis et André Chanson. Et à la une de cet hebdomadaire, il y avait André Gide, ou Malraux, ou Nizan, et en général un éreintement de tous les gens qui pouvaient exister à droite. Il nous semblait que l'intelligence était tout à fait réfugiée à gauche, dans l'antifascisme, et contre les gens de droite, avec un militantisme. Et un jour, je me souviens que j'ai ouvert mon Vendredi, que j'allais chercher dans un kiosque sur la place d'Armes à Blida, et le Vendredi, c'était Retour d'Urs par Gide. Et ce jour-là, j'ai eu l'impression que la Mecque avait disparu, que le paradis était perdu, et en un an, à cause de Gide, j'ai adhéré au mouvement communiste et je l'ai quitté, toujours grâce à lui. J'ai fait cet aller-retour. Mais à ce moment-là, je comprends et j'ai l'impression de sentir non seulement ce que sont la droite et la gauche, mais j'ai l'impression qu'il n'y a que la gauche qui compte. Je suis dans un univers où le bien, le vrai et le beau, enfin, les archétypes, quoi, sont à gauche. J'ai l'impression que le mal radical ne peut être qu'à droite. Ça s'incarne en plus dans des familles sur place, dans les traditions racistes, je dirais à ce moment-là surtout anti-arabes, ou bien le comportement supérieur, ou bien cette sortie de la messe, qui c'était un spectacle extraordinaire, le spectacle des bourgeois qui sortent de la messe, avantageux, repliés, avec un faux col, qui s'y dirigent tous vers la pâtisserie pour acheter le gâteau particulier devant les gosses qui les regardent, qui ont l'air des envies et de les craindre. C'est, tout ça est une image qui fait de la droite une essence, non pas un terme d'une dialectique qui pourra par la suite changer, que j'adopterai comme définition ensuite, mais qui fait que la gauche devient un univers, l'univers des vaincus, l'univers bien sûr des opprimés, l'univers des pauvres, mais surtout aussi l'univers des gens de bien, l'univers des gens de morale, l'univers des gens... Mon père ne parlait jamais politique, mais pour moi il était évident, puisqu'il était mon père, qu'il était beau, qu'il était grand, silencieux, puisque le silence a beaucoup compté dans ma famille. Je ne sais pas pourquoi, dans cette famille archi-méditerranéenne et si grouillante dans la maison, le silence était la marque d'une certaine noblesse, si vous me permettez l'expression. Le cri, c'était la vulgarité. Pour ma mère, crier, c'était d'être vulgaire. Cette petite bourgeoisie, on ne peut pas plus petite, si haut qu'on se soit élevé à la fin des fins. Eh bien, il y avait cette idée que la droite représentait le combat dans lequel, de Dieu à l'histoire, de la Révolution à la République, tous les génies de la bienfaisance nous avaient placés, nous avaient instaurés.
Eh bien, je pense que le seul trait commun, là, maintenant, où nos chemins vont se séparer, je pense, avant peut-être de se retrouver, le seul trait commun, c'est que chez nous non plus, on ne criait pas. On ne criait pas et on se taisait énormément. Sauf mon père, qui lui parlait politique, parlait histoire. Mais même si mon père était ami de Léon Blum et ambassadeur du Front Populaire, je vivais évidemment dans un milieu de droite, dans cette essence de droite que vous dépeignez et que j'ai dépeint moi-même dans Au plaisir de Dieu. Et j'ai été frappé par la sortie de la messe. Évidemment, j'ai beaucoup été à la messe. Et on n'avait pas l'impression du tout que c'était le mal, mais pas du tout. On avait plutôt l'impression que le bien, c'était nous. Et comme c'était en plus ou bien à l'étranger, dans des choses officielles, ou bien à la campagne, là où la famille avait une espèce de... qu'est-ce qu'on dit, avait les premiers rangs, disons, à la messe, n'est-ce pas, dans l'église. Oh, il devait même y avoir quelque chose, lâchons le mot, qui ressemblait à un château. Alors on avait toujours l'impression qu'il fallait se tenir, n'est-ce pas, et à cause de ce qu'on représentait. Et je suis frappé, et en secret, sûrement, si je vous avais connu à cette époque-là, je vous aurais envié. Parce que vous avez très bien dit, vous inventiez vos modèles. Et moi, il m'était donné. Il m'était donné. C'était mon grand-père, mon arrière-grand-père, l'arrière-grand-père de mon grand-père. Et il fallait faire comme eux. Et je n'avais pas le choix. Je n'avais pas le choix. Il fallait devenir diplomate, conseiller d'État ou inspecteur des finances. Et si on était vraiment incapable d'accéder au premier rang, eh bien, on serait trésorier, payeur général ou sous-préfet.
Vous aviez une voie royale.
Mais la voie m'était tracée. Ouais. Et la seule sortie que j'ai trouvée, c'était pour essayer d'éviter de devenir aussitôt conseiller d'État ou inspecteur des finances, c'était de faire des études. Et au même moment où se produisent ces drames qu'on a évoqués, les grands drames de la France abattue, eh bien j'essaye de ne pas devenir conseiller d'État et j'essaye de poursuivre des études en Cagne, en Hippocagne et en Cagne, qui me paraissent sublimes et qui me permettent de ne pas choisir tout de suite cette voie qui m'est offerte. Et là, mais un peu plus tard que vous, là je découvre mes maîtres. Et mes maîtres sont évidemment, en général, des gens de gauche. Et je suis l'élève d'Alba, en histoire. Je suis l'élève d'Hippolyte, l'Hégolien, en Cagne. Je suis l'élève d'Alquier. Je suis l'élève d'un professeur de français qui s'appelle Boudou. Et évidemment, l'Hippocagne et la Cagne, ça a été une sorte d'éblouissement. D'éblouissement qui me faisait perdre un peu mes repères, parce que le nom de Blum apparaît encore là, n'est-ce pas? Et Blum, pas chez mon père, encore une fois, mais dans ma famille, apparaissait comme un homme de gauche, redoutable, qui amenait la révolution. Et puis, j'arrive en Cagne et il apparaît comme le chef d'une bourgeoisie presque à droite, n'est-ce pas? Tout ça commence à tourner dans ma tête et je ne sais pas ce que je serais devenu si j'étais entré à l'université, mais là, j'étais encore dans une classe, n'est-ce pas? J'étais avec des maîtres, avec des horaires, et tout ça me mène vers l'école normale. Naturellement, on m'avait dit « tu n'entreras jamais à normal, parce que normal est à gauche, et tu n'entreras pas à normal ». Naturellement, je suis très bien entré à normal. Et qui est-ce que j'ai trouvé à normal? J'ai trouvé quelqu'un dont le nom est connu de tous ceux qui nous écoutent, Althusser, qui a été extraordinairement amical pour moi, qui m'a beaucoup aidé, ce qui fait que quand il a eu ses grands malheurs, quand il a...
Et qui a été votre professeur?
Non, il a été mon caïman.
Ah ouais.
Il était le caïman, c'est-à-dire le caïman, c'était un type qui, à normal, est un élève un peu plus vieux et qui s'occupe des élèves. Et c'est lui qui vous oriente. C'est que, déjà un peu guetté par l'éparpillement, j'ai été voir successivement Althusser en lui disant « je veux faire l'agrégation d'histoire, je veux faire l'agrégation d'allemand, je veux faire l'agrégation de lettres ». Et à chaque fois, très patiemment, il me disait « tu peux faire tout ça ». Et puis je suis allé le voir une dernière fois, je lui ai dit « je veux faire l'agrégation de philosophie ». Il m'a dit « tu es capable de faire toutes les agrégations sauf l'agrégation de philosophie ». Et naturellement, j'ai voulu faire l'agrégation de philosophie. Et là, évidemment, j'ai trouvé quelque chose qui était le marxisme. Et le culte, et le culte pour Staline. Et alors, encore une fois, Staline apparaissait à mes yeux comme l'allié nécessaire contre Hitler. Et si j'avais été plus vieux, j'aurais été enchanté, si j'avais été capable, j'aurais été enchanté.
Dans l'escadre.
D'être dans l'escadre, ça me paraissait ce qu'on pouvait faire de mieux au monde. J'étais dans l'escadre de Normandie-Niemen, comme tout le monde, j'avais transporté des brassards FFI à bicyclette et manié des pistolets que je ne savais pas, dont je ne savais pas l'usage. Mais très vite, peut-être sous l'influence déjà lointaine de quelqu'un que je ne connaissais pas, mais que je lisais, qui était Raymond Aron. Très vite, je me suis dit que Staline était un curieux objet de culte. Et sautons par-dessus les années, je ne sais pas si vous vous souvenez du télégramme de condoléances adressé par les élèves de l'école normale au génial père des peuples,
sûr.
Défenseur
bien
de la sûr. Démocratie, défenseur des droits de l'homme. C'était une honte. Eh bien, il me semble, mais peut-être que je me flatte, que je n'ai été à droite que pour un seul motif, c'est que je mettais Staline, non pas tout à fait dans le même sac que Hitler, parce que l'ombre de mon père veillait, et que je voyais bien qu'il y avait d'abord, derrière le marxisme, du savoir, et une histoire, qu'il n'y avait pas derrière les bandes du nazisme, et aussi qu'il y avait une image du bonheur de l'homme derrière le marxisme qu'il n'y avait pas derrière les folies du nazisme, donc que les fins n'étaient pas les mêmes, mais que les moyens étaient comparables, et j'ai été évidemment très vite anti-stalinien, donc de droite.
Les premières questions que je me suis posées, quand, ou plutôt quand la vie m'a imposé des questions, après avoir fini ma licence de philo, puisque j'étais à la licence et j'avais l'intention de préparer l'agrégation, bien sûr, je me suis donc engagé dans la division Leclerc. Je suis parti d'Alger pour contourner le sud tunisien, arriver en Tripolitaine, et nous avions eu dans un campement, on nous avait déjà distribué des tenues anglaises et des immenses croix de Lorraine, dont on était incroyablement fiers. Et il faisait 50 degrés, les puits italiens étaient empoisonnés, mais il y avait cette vareuse anglaise avec cette croix de Lorraine. Et je me souviens du premier appel qui a été fait autour d'un drapeau français dans un théâtre romain de Sabrata, en Libye, donc, où le capitaine nous a demandé de nous présenter. Et quand mon tour est venu de me présenter, il m'a dit « Pourquoi êtes-vous venu nous rejoindre ?» Moi, j'étais dans l'éblouissement. J'arrivais chez De Gaulle, j'arrivais dans l'armée Leclerc. Je croyais que j'arrivais dans les armées de la patrie, dans les armées de la Révolution. J'étais dans le romantisme à l'époque. Au moment de cet engagement, vous n'avez aucune idée. Je dis, madame, vous venez combattre avec qui? Avec De Gaulle? Non, vous n'êtes pas ici chez De Gaulle. Vous êtes sous les ordres du général Leclerc. Leclerc de Haute-Cloque. En plus, il y avait les gens qui disaient Leclerc et ceux qui disaient Leclerc de Haute-Cloque. Je n'y comprenais rien. Et je dis, mais mon capitaine, je suis à votre disposition pour servir dans les rangs que vous me désignerez, de la manière que vous me désignerez. Je voudrais savoir quels sont quand même vos motifs vrais de combat. Je lui dis, mais je viens combattre le nazisme. Il dit, non, on ne combat pas ici le nazisme. On vient bouter le Bosch hors de France. Et là, j'étais assez désarmé et je suis rejoint par un jeune aspirant, après avoir entendu ça, qui me dit, bon, t'es un nouveau, qu'est-ce que tu fais? Je dis, je suis étudiant en philo. Il me dit, moi aussi, mais je vais t'expliquer. Ici, ce sont un groupe de gens maurassiens qui sont venus chez Leclerc parce qu'ils sont anti-allemands. Parce qu'ils sont anti-allemands comme ils étaient en 14, comme ils étaient en 70, et que leur parler de défendre la République, c'est se mettre. C'était mon premier baptême chez Leclerc. Tout a tourné. Je comprenais plus rien. Mais c'est un fait que tout d'un coup, je découvrais que rien n'était simple dans cette France, et en tout cas, pas la guerre, et pas la Révolution, et pas les motifs de combat, même chez Leclerc, dont j'avais rêvé pendant des mois, en me disant le jour où j'aurai cette croix de Lorraine sur la poitrine. Et puis, évidemment, la seconde chose, le second vertige, bon, ben, c'est quand je suis rentré à Paris avec la division Leclerc, une autre fois, dans l'ivresse que tout le monde sait de la Libération, jamais j'ai connu une fête de gens, jamais on a été enivré jusqu'au fond de l'âme par une fête aussi essentielle, identificatrice, j'allais dire, identitaire plutôt. Et puis il y a eu la tonte des femmes. Nous avions fait une guerre propre, nous, confortable. On était dans des chars ou dans des autoblindés. On n'avait pas connu les compromis épouvantables de l'occupation, les spectacles, les trahisons. Comment se serait-on comporté à ce moment-là? On ne faisait pas de raisonnement, on a vu simplement des gens se comporter comme ça. Et ça, tout d'un coup, alors l'idée de droite, gauche, résistant par résistant, comment se tenir? J'ai mis très longtemps à me l'avouer à moi-même. Je crois même que c'est la première fois devant vous que je me dis à quel point ça m'a marqué.
C'est passionnant et émouvant. Je dirais que chez nous, un degré très très modeste, puisque en 40, j'ai 14 ans. Ce qui me frappe le plus, c'est que dans le grand malheur de l'époque, eh bien, mon sentiment est celui d'une grande unité et d'une grande espérance. Il me semble que très vite, peut-être on a été accablé en 40, mais dès 41, c'est pour ça que je reproche beaucoup à ceux qui n'ont pris le train qu'en 42, et quelquefois en 43, jusqu'aux noms les plus illustres, eh bien, il me semble que dès 41, l'espérance était là. Mais que dès 40, dans le désespoir, le refus était là.
Vous voulez dire le refus des Allemands?
Le refus des Allemands.
Le refus du nazisme.
Refus total. Oui. Eh bien, on allait mourir. Oui. Et je me rappelle, et j'ai un témoin qui n'est plus là malheureusement, qui était Jean-Paul Aron. C'est mon témoin parce qu'on était ensemble au lycée Blaise Pascal à Clermont-Ferrand. Eh bien, Jean-Paul Aron et moi, nous tracions des croix de Lorraine et en se disant, c'est peut-être perdu, mais on n'accepte pas autre chose. Et donc, une grande unité. Alors, dire que j'ai fait des choses considérables, non, je n'ai rien fait du tout, puisque je suis entré en hypocagne et en cagne et que je travaillais, et que en même temps que cette simplicité politique, il y avait le vertige littéraire. Et alors, cette simplicité politique se complique naturellement dès que le but est atteint. Tout est simple au milieu de tous les drames et de toutes les complications et toutes les larmes et de toutes les morts. Tout est simple de 40 à 44 et tout devient compliqué à partir de 44-45. Mon père n'est pas ardemment gaulliste. Il était ardemment anti-pétiniste. Il n'est pas ardemment gaulliste, je dirais d'abord, puisqu'on commence à le connaître un peu, d'abord parce que de Gaulle est un général et qui n'aime pas les maréchaux et qui n'aime pas beaucoup les généraux non plus. Alors c'est curieux, n'est-ce pas ? Mon père est plutôt un catholique progressiste. Il est plutôt du côté du bidot première manière, qui est déjà l'ennemi du général, mais à la gauche du général. Alors qu'après, il sera l'ennemi du général, mais à la droite du général. Et je me rappelle que je portais modestement des croix de Lorraine, des brassards de croix de Lorraine, et une lettre à un type à qui on m'avait dit de la porter, dont je ne connaissais pas le nom. Je sonne à une porte, la porte s'ouvre. Et qui est-ce que je vois ? Et naturellement, je le reconnais. Je le reconnais parce que c'est un ami de mon père. Je le reconnais parce qu'il avait été mon professeur. Je me trouve en face de Georges Bidault. Et évidemment, c'était émouvant parce que c'était en 44, avant la libération. Et Bidault m'a aussitôt reconnu. J'étais son élève. Et c'est comme ça que j'ai été hissé au sommet, moi qui n'avais rien fait, au sommet de la résistance par le hasard. Ensuite, il y a quelque chose qui m'a troublé, qui était le procès de Pétain et le procès de Laval. J'étais ardemment anti-Laval et je crois pouvoir dire ardemment anti-Pétain. Mais je pensais qu'il était un peu étrange qu'un juré puisse crier un inculpé, quel qu'il fût. On aura ta peau, ou tu auras 12 balles dans la peau. Et également, je crois que les membres du jury étaient choisis parmi les membres de la résistance, ce qui me paraissait quand même stupéfiant. Et alors on me disait, alors j'étais déjà pris dans les contradictions, on me disait qu'est-ce qu'il fallait faire ? Ben, je disais, il fallait les tuer, simplement, il fallait les tuer. Mais il me semblait que c'était une dénaturation de la justice de faire juger les vaincus par les vainqueurs. Et évidemment, à partir de ce moment-là, alors on entre dans des grands troubles. Et mon père m'accusait d'être tantôt de droite, tantôt de gauche. Je ne comprenais plus rien à mes réactions. Et d'ailleurs, moi-même, je n'y comprenais plus grand-chose. Mais il me semblait au contraire que ce qu'il y avait de beau dans les années 40-44, c'était cette simplicité et cette unité qui, elle-même, comme vous le dites, cachait beaucoup de combats internes que, grâce à Dieu, on ignorait.
Et parmi les combats internes, je vais vous raconter, je ne résiste pas au plaisir de vous raconter un petit parcours personnel qui comptera dans ma vie de manière négative. Je me fais démobiliser à Paris et je me réinscris à la Sorbonne. Breyer, l'historien de la philosophie, faisait sa dernière année. Et je reviens de la Sorbonne un jour, j'habitais rue Gay-Lussac, avec quelques amis, dont quelqu'un qui devait devenir une romancière d'après moi grande, Marie Susini, dont j'ai plaisir à répéter le nom ici, et je rencontre quelqu'un qui porte beau, il me semble que je reconnais un préfet dont mes parents parlaient, et je me souviens de son nom, c'était Georges Zerbini, nous étions en 1946, et il me dit, vous tombez à pic, j'ai besoin de vous. Qu'est-ce que faisait Georges Zerbini ? Il était directeur de cabinet de Félix Gouin, qui venait de succéder au général de Gaulle. Zerbini avait été préfet dans le département d'Alger. Blida était une petite ville, mais il y avait des rumeurs. Un de mes professeurs, Hamid Zerbini, lui avait dit que je brillais dans la manière d'écrire, dans cette petite sous-préfecture, il est permis de dire ça, sans être narcissique ou complaisant. Et c'est vrai que parmi ces gens-là, j'étais celui qui avait le plus de facilité, disons, et d'inspiration. Et il m'a dit, à partir du moment où je vous prends à côté de moi, j'ai dit, oui, mais je ne pourrais pas, écoutez, faites cette expérience, on verra après pour la création. Venez près de moi. Je ne savais pas pourquoi il me conduisait à venir. J'avais encore, moi, tenue militaire, en tout cas ma capote, et défraîchie. Il faisait froid à Paris, et puis je pénètre, c'était l'hôtel de Brienne, où De Gaulle était installé, puis Gouin, à l'hôtel de Brienne, l'actuel ministère de la guerre, je vois que moi, qui avais toujours salué des sous-officiers ou des officiers, je vois que des gendarmes me saluent, se lèvent et je me demande toujours de qui, et on me conduit dans un bureau, une secrétaire qui était assez digne, et ma semblait-il semblé assez dédaigneuse, me dit, je vais vous conduire dans le boudoir de Madame Mère. En effet, Laetitia avait habité là. Et elle me dit, avec un air désolé, Monsieur Claude Mauriac vous a précédé en ces lieux. J'étais assez écrasé partout. J'étais un petit Français d'Algérie qui venait d'être démobilisé, qui était dans l'hôtel de Brienne, près du second du premier personnage de l'État. Second parce que De Gaulle me reste dans l'esprit. Et qu'est-ce qu'on me donne à faire tout de suite? Les discours. J'avais 26 ans. Les discours du président, du premier, il s'appelait président du conseil ou président du gouvernement provisoire. En tout cas du chef de l'État. Si bien que j'ai connu cette fonction, et j'ai fait 4 ou 5 fois à cette époque des discours, et quand ce président parlait, c'est par ma voix, c'était en tout cas par sa voix qu'il les exprimait à la nation. J'ai eu l'impression d'une telle imposture, d'une telle comédie, qu'on me demande ça à moi, que je puisse le faire, qu'on en soit content. Quelquefois, il y avait des sujets de réflexion. Une fois, j'avais parlé de prise de conscience. Gouin, qui était un médiocre, avait compris viol. Il m'avait dit, n'employez jamais ce mot. Mais enfin, l'idée que je puisse, qu'on puisse s'adresser à moi, que je puisse remplir pendant 6 mois cette fonction, m'a donné à tout jamais l'idée que d'abord que la politique était une imposture, ensuite qu'il fallait pas s'y prêter, enfin qu'on pouvait pas avoir confiance dans ces hommes, et qu'il y avait quelque chose de vicié dans ses fonctions.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre enregistrée en 1996 entre Jean d'Ormesson et Jean Daniel récemment disparu. À voix nue, réalisation Nicole Salerne, attachée de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À voix nue se réécoute et ce podcast sur franceculture.fr.